Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue dans votre petite émission Au-delà des apparences. Nathanaël Vigneault vient pour ce deuxième épisode de la vie en bidonville, si je puis dire. Ça choque, hein, ce mot en France, bidonville, et personne ne connaît ces enfants, ces hommes, ces femmes qui y vivent, qui y travaillent et qui vont à l'école.
Et oui, et c'est un des clichés que les Roms ne vont pas à l'école, par exemple, ce qui est totalement faux. Enfin, en tout cas, dans notre cas, tous les enfants vont à l'école.
Dans votre cas, sur
le terrain de la Flambère, voilà, qui a un terrain à Purpan, où c'est une quarantaine d'enfants qui vont à l'école tous les matins avec joie et régularité.
Donc vous êtes là pour... Oui, enfin, vous avez quand même beaucoup frappé aux fenêtres et aux portes des caravanes pour démarrer. Oui. Ça, on en parlera dans une autre émission. Vous avez quand même beaucoup réveillé d'enfants pour qu'ils comprennent que l'horaire était la chose la plus nécessaire à respecter quand on voulait avancer à l'école. Bon, mais ça, on en reparlera pour une autre émission. Aujourd'hui, on est sur la culture, puisque la semaine dernière, nous avons abordé la puissance de la culture, y compris et peut-être surtout dans ce qui ressemble de prime abord à une sorte de déchetterie. Comment la culture change le regard?
C'est un vaste sujet, mais très simplement et très concrètement, quand vous mettez deux personnes dans une même pièce autour d'un événement convivial et festif, c'est obligé que quelque chose se passe.
C'est-à-dire la joie
le partage, la rencontre, l'émotion. Il y a forcément un dialogue. On est sur un terrain neutre et quand deux personnes dansent ensemble, il se passe quelque chose. Donc forcément, notre regard change sur l'autre, on le voit positivement. Et nous, on est là pour créer un discours collectif, recréer un discours positif et collectif avec les Roms. Voilà, sur les Roms et avec les Roms de la Flambère. Donc ce terrain sur lequel on travaille depuis 10 ans, c'était vrai il y a 10 ans ce qu'on faisait, c'est encore vrai et encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc ça, c'est notre quotidien culturel, il est là.
Alors expliquez-moi bien concrètement ce que vous faites, en fait, depuis 10 ans et où en sont arrivés les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, parce que Julietta, la maman...
Oui. Nous, ce volet culturel dans l'association, qui est un des trois piliers, il est double en fait. On a un côté inversant diffusion des cultures tziganes, qui est le cœur historique du pourquoi on a créé Rencontre nous. Donc là, en fait, c'est surtout les habitants de plus en plus du terrain de la Flambère, donc le bidonville sur lequel on travaille, qui vont animer des temps culturels, donc des ateliers cuisine, des stages de danse, des temps autour de films, qui vont montrer toute la diversité culturelle, donc qui vont être ambassadeurs en quelque sorte de leur culture.
Donc ils font des ateliers cuisine à l'extérieur.
À l'extérieur, voilà.
Ils font du chou rhum, par exemple.
Des sarmalés, des choux avec de la viande. Mais ils peuvent faire des pâtisseries, mais ça c'est pour la cuisine, mais ils peuvent faire de la danse, ils peuvent animer d'autres ateliers. En fait, ils vont...
Julietta, donc la maman...
Maman d'André, anime régulièrement des initiations aux danses tziganes.
Alors qu'elle mendie ou mendiait dans la rue de la même manière, en fait.
Exactement,
sauf que
là,
on lui ouvre une porte d'une institution, entre guillemets, toulousaine, au cœur de la ville, et là, elle apprend à danser à des gens qui en ressortent complètement émerveillés, en fait.
Exactement, donc elle crée une rencontre culturelle, et qui fonctionne. Et ensuite, le deuxième versant, donc ça c'est le premier versant, le deuxième versant c'est tout ce qui est l'ouverture culturelle et artistique. Donc là où on est moins sur les cultures tziganes, mais on va être sur de la découverte de pratiques nouvelles. Donc le théâtre, la poésie, les danses qui ne sont pas des danses tziganes, le cirque. Et on amène les enfants et les jeunes surtout vers d'autres univers. On leur crée des espaces d'expression artistique. On va créer, on va faire des journaux, on va faire des éditions, on va faire des spectacles théâtre, poésie, on va faire des spectacles danse. Et on emmène les jeunes à découvrir de nouveaux univers et à s'exprimer, à se découvrir des talents, à se révéler et à prendre conscience que, en fait, ils ne sont pas bons à rien, comme beaucoup le pensent ou le disent. J'aime pas dire ça, mais c'est une réalité. Beaucoup de gens le pensent. Et en fait, non, quand ils sont sur scène, on voit avant tout, par exemple, des artistes et on ne voit pas des jeunes en situation de précarité.
Et est-ce qu'eux le pensent aussi, à partir du moment où toute la société pense qu'ils ne valent rien? Est-ce que eux-mêmes grandissent dans l'idée qu'ils ne valent rien?
Oui. Et oui, un gros déficit de confiance en soi. Je prends l'exemple d'André, parce que c'est le plus flagrant, parce que moi je l'ai connu il y a 10 ans quand on a créé l'association.
Il a quel âge?
Et aujourd'hui il a 20 ans, donc il y a 10 ans il avait 10 ans. Donc il a eu un parcours avec nous, on va dire, exemplaire ou, et atypique.
Enfin, c'est un enfant qui mendiait pour sa mère quand...
Bien sûr, c'est un enfant qui a connu une difficulté, qui n'allait pas à l'école parce qu'il fallait aller faire la mendicité pour subvenir aux besoins de sa famille. Et en 2018, il a fait un premier stage. Et moi, quand il a fait ce premier stage avec nous, quand il était au collège, il avait du mal à me regarder dans les yeux parce qu'il n'avait pas confiance en lui, alors qu'on se connaissait depuis des années. Et aujourd'hui, il s'exprime à la radio, il s'exprime jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc donc il a un parcours, une progression énormissime. Et je pense que les projets culturels n'y sont pas pour rien. Parce que ces projets lui ont permis de s'exprimer, de gagner confiance en lui, de se faire confiance, de prendre conscience qu'eux. Et tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, il en est là.
Mais il en est là et il en est à être un acteur, oui, presque de première classe, je dirais, si on arrive à aller plus loin ensuite dans la reconnaissance de cet art-là. Expliquez un petit peu ce que vous avez réussi à faire en termes de théâtre avec cette troupe de jeunes qui avaient tant de talents à revendre, mais qu'on n'aurait même pas imaginé une seule seconde. Ils ont joué leur vraie vie, en fait, leur vrai cliché.
Exactement. Et en fait, ils ont une force et une énergie incroyable. Et Léa Garcia, l'artiste avec laquelle on travaille depuis 10 ans aussi, le dit elle-même. En fait, il y a même des artistes qui n'ont pas cette énergie-là et cette motivation-là. Donc, c'est un vrai plaisir au quotidien. Alors la jeunesse, c'était en 2020, en plein confinement, en fait, on ne pouvait rien faire. Mais on a quand même décidé de faire de la poésie, art qu'ils ne connaissaient pas, la poésie. Donc c'était aussi un défi et un risque pour moi de dire est-ce que ça va leur plaire. Et ils ont fait un spectacle de poésie et ça a cartonné, ça leur a plu. Et en fait, on s'est dit la scène leur appartient, ils aiment la scène, ils savent jouer avec la scène spontanément. Eux-mêmes le disent, ils ont appris sur eux-mêmes qu'ils pouvaient faire rire les gens. Et donc à partir de là, on est allé plus sur du théâtre, sur du mime, sur Charlie Chaplin. Et d'impro en impro, on a fait un spectacle, puis deux, puis trois. Et puis là, on en est au quatrième spectacle. Et la magie fonctionne, voilà. Ils sont là, ils s'expriment parfaitement sur scène, entre théâtre et poésie, entre poésie en français, poésie en romani, donc la langue des tziganes. Ils sont, voilà, et ça fonctionne toujours autant.
Pourquoi ce talent de vitalité? Et pourquoi finalement, c'était presque naturel d'être aussi à l'aise avec leur propre vie et avec le regard des autres? Et ce rire, parce qu'on rit, on rit à pleine gorge.
Je pense qu'il y a toujours cette idée de partage, ils ont envie de partager, puis ils ont aussi envie, parce qu'ils sont au quotidien engagés contre le racisme et l'anti-tziganisme, donc ce racisme spécifique contre les Roms. Et je pense qu'ils ont conscience que ce spectacle, ces spectacles, au-delà de l'aspect artistique, purement artistique et culturel, c'est aussi un outil et un support pour montrer une image positive et valorisante de jeunes Roms qui vivent en situation de précarité. Et quand on fait des spectacles, il y a toujours un débat derrière une rencontre, et moi je tiens toujours à ce que le spectacle vienne avant la connaissance de la Flambère et de l'association, pour pas biaiser le regard qu'auront les gens sur les jeunes. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient les jeunes, ils les voient d'abord comme de jeunes comédiens, ils ne les voient pas comme des jeunes qui vivent dans un bidonville.
Pas de misérabilisme, au contraire, voilà. Du talent d'abord pour rentrer, oui, en contact.
Et le talent, ils en ont. Voilà, ils en ont plein. Là, sur ce nouveau spectacle qui s'appelle Et voilà, donc c'est Antonio, Andrei, Alina et Florine.
Quatre jeunes.
C'est un défi. Alors, ils maîtrisent la scène, ils maîtrisent le théâtre, mais on voulait qu'ils prennent des risques. Parce qu'en fait, on voulait qu'ils sortent de leur zone de confort, parce que c'est leur quatrième création. Parce qu'à chaque fois, c'est des créations. Et on voulait qu'ils sortent de leur zone de confort, voilà, qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils savent faire, qu'ils jouent de nouveaux personnages, de nouvelles situations, qui s'expriment davantage en français sur la scène. Donc ils aiment prendre ces risques-là et ils y arrivent admirablement bien.
On mettra sur le site les spectacles pour que les gens puissent venir. Je vous propose une petite pause musicale avec Sandu Ciorba, je ne sais pas si je le prononce bien, un artiste tzigan roumain. On écoute tout de suite. Nathanaël, si seulement on connaissait la puissance de ces jeunes, la puissance de leur dynamisme, de leur joie finalement, de leur vitalité, de leur connerie, je dirais, de jeunes vivants et débrouillards, Parce qu'ils ont aussi toutes ces qualités-là, hein, que n'ont pas forcément tous les gosses trop bien rangés, je dirais. Mais j'ai presque l'impression, souvent, et ça me fait la même impression quand je vois des spectacles au Mirail ou dans certains endroits, vraiment confinés dans une certaine catégorie, il y a une telle vitalité que ça redresserait tout notre pays en passe de devenir complètement dépressif, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est sûr, et il faut rappeler quand même que c'est des jeunes qui vivent en situation de grande précarité, très grande précarité. Donc les répétitions de théâtre, c'est du plaisir, c'est du rire, c'est de l'énergie, c'est que du positif. Mais il ne faut pas oublier, et nous on n'oublie pas que avant d'arriver à la répétition de théâtre, eh ben, il faut traverser le bidonville. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il fait froid, il y a les enfants, enfin, il y a tout ça, donc il y a cette précarité-là. Est-ce que le frigo est plein ? Est-ce que la famille a assez à manger pour la journée ? Tout ça, c'est aussi leur quotidien. Donc cette joie, ce positif-là, il vient quand même à côté de difficultés de précarité au quotidien. Et ça, non, on ne l'oublie pas, il faut en avoir conscience. Et c'est ce qui rend en fait ces projets si magiques, c'est que du coup, les jeunes savent mettre tout ça de côté, le temps de la répétition, le temps des spectacles, pour ne rien laisser transparaître.
Et ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que la relativité de notre, je mets plein de guillemets, hein, luxe, et de leur énorme pauvreté a une incidence presque sur l'importance de l'art ou sur l'importance du partage ou...
Je pense l'importance du partage, oui.
On sort de l'angélisme, hein, pas d'angélisme, on est bien d'accord, mais en même temps, il faut bien qu'on comprenne cette joie du partage.
Moi, je pense que chaque moment culturel, ils le vivent comme une évasion et que le quotidien sur le terrain et le bidonville à Flambert est tellement difficile. Parce que ça reste un bidonville, hein, même si c'est pas le pire bidonville de France, mais ça reste quand même un bidonville sans eau potable, je me permets de le rappeler.
Ni le pire bidonville de Toulouse.
Ni le pire bidonville de Toulouse. Ça reste quand même, la vie sur le bidonville reste quand même très 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 difficile. Et que chaque moment culturel reste une évasion et un moment où on va prendre du plaisir. Et je pense qu'ils en profitent pleinement. Et qu'ils en ont peut-être pas conscience, mais d'un regard extérieur et avec du recul, je pense qu'il y a un peu de ça.
Voilà, le retour est quand même assez fantastique, le retour de la salle. Où tout le monde est mélangé d'ailleurs, puisqu'il y a les parents du bidonville, il y a les frères, il y a les sœurs et il y a le grand public. Oui, donc là, il y a une mixité exceptionnelle.
Et oui, bon. Il y a toujours la rencontre culturelle, c'est le cœur historique.
Alors, l'autre volet encore un autre volet de cette immense expérience positive, je dirais, cet envers du décor, on la vivra donc la semaine prochaine, dans la prochaine émission, où cette fois-ci, c'est le volet scolarité, éducation, qui va faire la grande différence. Merci beaucoup, Nathanaël Vigneault.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.